Bien, bonjour. Oui, les annonces ont été faites un peu tardivement. Alors, soit c'est ça, soit le fait que je finisse par fatiguer mon audience. Donc, pour cette série de cours là, qui va commencer, je vais revenir aux maladies monogéniques, puisque l'an dernier, j'avais fait un tour sur la génétique des maladies communes. Donc là, on va revenir aux maladies monogéniques et sur un aspect évidemment important qui est celui de est-ce que la compréhension des maladies qui a explosé grâce au progrès sur les connaissances du génome, grâce au progrès technologique, on a identifié de plus en plus de gènes qui sont responsables, qui sont mutés dans des maladies génétiques. Ceci a permis d'aider au diagnostic, au conseil génétique, au diagnostic prénatal, à tout ça. Mais évidemment, la question que se posent les patients et les familles, c'est est-ce que ça va aider pour la prise en charge médicale et les traitements de ces maladies, puisque souvent il s'agit de maladies extrêmement handicapantes ou qui entraîne une espérance de vie très raccourcie, quelquefois les deux ensemble. Et donc, la question, c'est effectivement, est-ce que les connaissances sur les maladies, ce qu'on appelle sur les mécanismes, parce qu'effectivement, vous avez d'une part le gène qui est muté, et puis ça entraîne un certain nombre de manifestations cliniques, mais entre les deux, il y a ce qui est en général une boîte noire et qu'il s'agit de décrypter, ce qu'il y a dans cette boîte noire, c'est comment le déficit en une protéine, ou quelquefois le trop de fonctionnement d'une protéine, c'est un cas de gain de fonction, entraîne toute une série d'événements qui vont au niveau de la cellule, au niveau d'un organe, et qui vont se traduire effectivement par les manifestations cliniques. Donc c'est la physiopathologie. Bien connu, puisque le collège est le lieu de Claude Bernard. Et évidemment, une fois qu'on a compris au moins partiellement la physiopathologie, on peut se dire, est-ce que ça va aider effectivement au traitement? Donc, cette série de cours sera consacrée à ceci. Alors, évidemment, il y aura des choix, puisque c'est une littérature extrêmement abondante. Il y a beaucoup de choses qui bougent, j'allais dire, pour un scientifique, souvent, il se dit, tiens, il y a vraiment des progrès. Le problème, évidemment, c'est que du côté des malades et des familles, tant que vous n'avez pas fait tout le chemin jusqu'au développement du médicament, pour eux, il n'y a pas encore de progrès. Donc, ce qui a l'air d'être des progrès intéressants du côté des patients et des familles. Eux trouvent évidemment, et on les comprend, que les choses vont lentement. Et je vais peut-être illustrer justement par quelques histoires qui montrent combien de temps ça peut prendre. Donc, pour ce premier cours, pour cette heure, j'ai décidé de faire une petite introduction sur des maladies génétiques pour lesquelles il existe des traitements depuis assez longtemps, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'années, et pour montrer comment est-ce qu'on a pu arriver à ces traitements, et que malheureusement, les choses ne sont pas toujours aussi simples, et qu'on fait un progrès, et puis on s'aperçoit qu'il y a un problème, et donc il faut résoudre le problème, sinon, dans certains cas, on annihile le progrès. Donc, c'est donc quelques succès classiques dans traitement des maladies génétiques, c'est la première heure. La deuxième heure, ça sera deux exemples de thérapeutiques pharmacologiques qui sont en cours d'être testées, plus ou moins avancées selon le cas, mais sur la base en fait de ce qu'on a appris sur des modèles animaux de la maladie, puisque après avoir découvert le gène, il a pu être fait des modèles animaux, notamment dans la souris, mais quelquefois dans la drosophile, de ces maladies. Et ça a permis de se dire, tiens, dans cette boîte noire, il y a des voies de signalisation qui sont altérées, des voies de signalisation pour lesquelles on a des composés pharmacologiques qui étaient connus et qui interfèrent avec cette voie de signalisation. Peut-être que ces composés pharmacologiques pourraient être utilisés et des essais cliniques ont été faits. Donc ça, ça sera la deuxième heure. Les deux cours de la semaine prochaine seront consacrés à des aspects thérapie génique. Alors, comme vous savez, on parle beaucoup de la thérapie génique, notamment, je dirais, au moment du Téléthon. Quelquefois, certains collègues trouvent même qu'on en parle trop, que la thérapie génique, ça ne marche pas ou ça ne marche que dans de trop rares cas, et donc on dépense trop d'argent là-dedans. Et donc, j'essaierai de vous faire une présentation balancée. Et je pense que les choses, quand même, bougent dans le bon sens, même si ça ne sera pas la panacée pour toutes les maladies génétiques, ça c'est absolument évident. Et donc, je parlerai un cours sur des succès cliniques, je dirais déjà avérés, mais sur un petit nombre de malades, très petit nombre de malades, quelquefois, et puis des essais en cours ou en préparation, notamment pour des maladies musculaires. On parlera encore, en principe, de thérapie génique le 30 mars, et puis d'autres aspects de thérapeutique pharmacologique où c'est plus tellement d'avoir une thérapeutique pour une maladie donnée, mais éventuellement une thérapeutique pour des types de mutations données, éventuellement pour plusieurs maladies différentes, ou des thérapeutiques qui, pour une maladie donnée, ne vont agir que chez les patients qui ont certaines mutations particulières. Ce qui est ce qu'on appelle quelquefois la médecine très personnalisée, puisqu'on va avoir effectivement, on peut traiter le malade avec ce médicament que s'il a effectivement telle mutation. Donc nous commençons par les premiers succès thérapeutiques pour des maladies génétiques, avec trois exemples, phénylcétonurie, hémophilie. Ils sont vraiment alors là des exemples ultra classique qu'on apprend aux étudiants en médecine tout à fait au début et que même dans le grand public, on connaît bien. Et ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est l'enzymothérapie substitutive pour les maladies lysosomales. Alors, la phénylcétonurie, c'est un exemple intéressant parce que c'est une des toute première maladie génétique identifiée, responsable de retard mental et dont le mécanisme biochimique a pu être compris bien avant qu'on puisse identifier par les techniques de clonage ou de génie génétique, qu'on puisse identifier des gènes, qu'on puisse séquencer des gènes. Donc la phénylcétonurie, qui était responsable, on peut parler au passé, de retards mentaux très sévères. C'est une maladie autosomique récessive. Et donc, les retards mentaux, c'est une pathologie, j'en ai déjà parlé, qui est très hétérogène, très complexe. Il y a des tas de maladies génétiques ou d'événements génétiques qui peuvent être responsables de retards mentaux. Donc, c'est très complexe. Et pourquoi la phénylcétonurie a pu être identifié. C'est une cause qui n'était pas si rare, disons, dans les retards mentaux, mais surtout, il se trouve qu'en 1934, quelqu'un, donc Folling, je crois que c'est un Danois ou un Suédois, je ne me rappelle plus, a remarqué que chez certains patients qui étaient dans des institutions pour retarder mentaux, leur urine avait une odeur très particulière. Et s'il dit, s'il y a une odeur très particulière, c'est qu'il doit y avoir un composé anormal. Il a identifié composé comme des dérivés d'un acide aminé, la phénylalanine. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la phénylcétonurie, parce qu'il y a des composés phénylcétoniques qui s'accumulent dans l'urine, qui donne donc cette odeur caractéristique qui a permis de dire, tiens, parmi les tous les patients avec retard mental qui étaient dans des institutions, eh bien, de temps en temps, pas très fréquemment, mais de temps en temps, on en trouve où leur urine a cette odeur. Donc, par chimie, identification de ces composés phénylcétoniques. Et, bon, évidemment, c'était une période entre 1934 et 1947-53, où, d'une part, il y avait des événements dans le monde qui faisaient que peut-être certaines recherches étaient considérées comme un peu moins importantes. Et puis, surtout, c'était l'époque où la biochimie, notamment la biochimie des enzymes, se construisait. Donc, les outils, petit à petit, se construisaient. Et c'est entre 1947 et 1953 qu'un autre chercheur, donc Jervis, identifie l'anomalie biochimique, le déficit d'une enzyme qui transforme la phénylalanine en un autre acide aminé, la tyrosine. Et donc, cette enzyme, c'est la phénylalanine hydroxylase. Et effectivement, comme cette enzyme transforme la phénylalanine en tyrosine, cette enzyme est déficiente chez les patients. On aurait pu se dire, est-ce qu'il y a un déficit en tyrosine, puisqu'on ne fait plus de tyrosine à partir de phénylalanine. Mais la tyrosine, c'est un acide aminé qui se trouve dans l'alimentation. Et donc, en fait, le problème n'est pas un déficit dans le résultat de la réaction enzymatique, mais en fait le fait que cette réaction enzymatique, c'est celle qui catabolise, qui permet surtout de cataboliser la phénylalanine. Et quand cette enzyme est absente, la phénylalanine augmente, augmente dans le sang, mais augmente aussi dans le cerveau. Et pu constater effectivement, comme ça, que la phénylalanine était extrêmement toxique quand elle était en trop grande quantité, pour le cerveau, et notamment pour le cerveau en développement, donc pour le cerveau du jeune enfant. Donc, cette anomalie a été identifiée en 1947 et 1953, et un clinicien qui travaillait en Suisse, à l'époque, et puis qui après allait en Angleterre, et je montrerai un peu pourquoi, a eu lieu de se dire que finalement la phénylalanine, sa source, elle est essentiellement alimentaire, et donc que peut-être on arriverait, puisqu'il y a cette phénylalanine qui est toxique parce qu'elle s'accumule, en ayant une alimentation qui soit pauvre en phénylalanine, on pourrait peut-être arriver à des résultats intéressants. Et c'est allé très vite, les premiers essais cliniques ont été très encourageants, mais avec quelque chose d'important, on s'est aperçu que c'était encourageant qu'à condition de commencer le traitement très tôt. Je vous ai dit, la phénylalanine est toxique pour le cerveau en développement, donc pour le cerveau du jeune enfant. Donc, il fallait commencer le traitement le plus tôt possible après la naissance. Ça voulait dire que, évidemment, chez un enfant nouveau-né, on ne sait pas a priori est-ce qu'il a un retard mental. Donc, il fallait pouvoir faire un diagnostic très rapide, en l'absence de signes cliniques. Et ça a été quelque chose qui a conduit à proposer de faire systématiquement, sur tous les nouveau-nés, même ceux qui, apparemment, il n'y a aucune histoire de phénylcétonurie dans la famille, donc a priori, c'est le nouveau-né tout le monde, mais enfin, les maladies récessives le plus souvent surviennent dans des familles où il n'y avait rien avant. Et donc, de faire un dépistage prénatal systématique sur tous les nouveau-nés, par un prélèvement sanguin au talon tant que le nouveau-né est encore à l'hôpital, et mesurer est-ce que dans cette petite goutte de sang, il y a un taux normal ou au contraire un taux trop élevé de phénylalanine. Et donc ça a été mis en place d'abord dans des essais. Alors d'abord il a fallu, et ça c'est M. Guthrie, Robert Guthrie, dont la photo est là, qui a mis au point, qui était au début un bactériologiste, et j'ai expliqué aussi parce que c'est intéressant pourquoi tout d'un coup un bactériologiste s'intéresse... aussi quelqu'un qui travaille sur le cancer, mais s'intéresse à la phénylcétonurie, a développé un test qui pouvait être fait pour pas cher, parce que quand vous faites un test sur tous les nouveau-nés, Pour détecter quelque chose, j'ai oublié de vous dire, la fréquence d'affinicétonurie, c'est environ 1 sur 10 000 à 1 sur 12 000. Donc vous devez faire 12 000 tests pour en trouver un positif. Donc c'est évident qu'il faut que ce test soit très sensible, parce que vous ne voulez louper personne, mais il faut qu'il ne coûte pas cher. Parce que s'il coûte très cher, évidemment, tout le monde vous dira... Donc Guthrie a développé un test pas cher, qu'on a appelé le test de Guthrie, et qu'on continue d'ailleurs souvent d'appeler le test de Guthrie, bien que les progrès de la technique aidant, on ne fait plus comme, effectivement, ce premier test. Maintenant, c'est des tests beaucoup plus, je dirais, quantitatifs qui se font. Mais ça a été très important parce que ça a permis, dans plusieurs États américains, et puis assez rapidement en France, dans tous les pays européens, et à l'heure actuelle, quasiment, je dirais, dans tous les pays où il y a suffisamment d'argent pour qu'il y ait un système de santé qui soit efficace et bien organisé, donc dans tous ces pays dans le monde, il y a un dépistage systématique de la phénylcétonurie qui permet, en 15 jours ou 3 semaines, de dire « attention, cet enfant est effectivement le phénylcétonurique, a des taux élevés de phénylalanine dans le sang, et donc il faut le mettre sur le traitement diététique. » Et donc tout était très bien, c'était vraiment un succès extraordinaire, obtenu, comme dit, dès les années 65, donc avant qu'on puisse identifier des gènes par les techniques actuelles, qu'on puisse les séquencer. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte d'un problème que je vais, dont je vais parler un petit peu, c'est qu'on risquait de perdre la totalité de ce qu'on avait gagné par le fait que les mères qui avaient été, enfin les jeunes femmes, les filles plutôt, qui avaient été détectées, traitées et faisaient des enfants, eh bien, ces enfants n'étaient pas génétiquement atteints par la phénylcétonurie, mais il y avait un problème de toxicité maternelle de ces femmes qui avaient des taux élevés de phénylalanine dans le sang pour le cerveau du fœtus et pour, d'une manière générale, le développement fœtal. Alors, juste une chose, alors je m'excuse pour les diapositives qui sont quelquefois un petit peu complexes et en plus en anglais, parce que ça c'est une facilité, n'est-ce pas, de faire du copier-coller. Mais deux petites histoires. Donc vous avez vu qu'il y a deux noms qui ressortent là-dedans pour la mise en place du traitement et du dépistage néonatal. C'est le docteur Bickel et c'est Robert Guthrie. Et donc, c'est intéressant de savoir pourquoi ces gens-là se sont intéressés à cette maladie, pourquoi ils ont commencé, parce que ça montre, et c'est quelque chose qui est important pour les maladies génétiques. Les maladies génétiques, c'est des maladies rares qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, n'intéressaient pas beaucoup, et on va y en parler, l'industrie pharmaceutique. Souvent, n'intéressaient pas beaucoup la majorité des médecins parce que, de toute façon, on ne peut rien faire, puis de toute façon, c'est tellement rare, on va en voir une fois, puis la probabilité qu'on en voit une deuxième fois est nulle, donc pourquoi s'intéresser à ça. Et donc, Bickel, qui était pédiatre, avait commencé à être formé chez un grand pédiatre de l'époque suisse, Fanconi. Il y a une maladie qui s'appelle l'anémie de Fanconi, qui est très, très connue. Et Fanconi avait dit, voilà, il faut faire ce test sur l'urine de chaque patient avec un retard mental qui permet de détecter la phénylcétonurie. Ensuite, M. Bickel est nommé à un hôpital d'enfants à Birmingham. Il commence à faire ce test. Il trouve un patient. Et la mère de ce patient lui dit « Mais il faut absolument faire quelque chose. Faites quelque chose. » Et finalement, c'est sur l'instance de cette mère qu'il se dit, tiens, mais peut-être que si on diminuait l'apport de phénylalanine, il y aurait des effets intéressants. Et effectivement, il montre que ça peut être utile, et notamment utile chez les patients détectés tôt. Et donc, on passe à Robert Guthrie, qui, lui, s'est intéressé à ça, je dirais, pour des raisons personnelles. Il avait un enfant avec un retard mental, et il avait notamment aussi une nièce dont on avait trouvé à l'âge de 15 mois qu'elle avait une phénylcétonurie, et c'était trop tard pour pouvoir la traiter efficacement. Et donc, il s'est dit qu'il allait essayer de mettre au point ce test permettant de faire un diagnostic prénatal. Alors, à l'époque, c'était un test bactériologique, c'est-à-dire qu'on avait des bactéries qui avaient besoin de phénylalanine pour pousser, et donc on mettait on découpait la goutte de sang qui était déposée sur un buvard, et on regardait sur des boîtes de pétri est-ce que ça permettait à ces bactéries qui avaient absolument besoin de phénylalanine de pousser ou pas pousser, et selon qu'elles poussaient très bien, c'est qu'il y avait beaucoup de phénylalanine, si ça ne poussait pas beaucoup, c'est qu'il y avait un taux normal. Donc, ce premier test marchait bien. Je vous dis maintenant, on a un test qui est complètement, je dirais, de mesure de la phénylalanine. Enfin, ça a été un premier test. Et dès 1963, 61-63, il y a 400 000 nouveau-nés qui avaient été testés, 39 cas qui avaient été trouvés, à peu près 1 sur 10 000, et ça prouvait vraiment que ça pouvait marcher. Ce qui est intéressant dans ce qui est dit dans ce petit historique, c'est que là aussi, il fallait évidemment des fonds pour mettre en place ce dépistage systématique, hein, puisqu'il s'agit, même si ce n'était pas trop cher individuellement, multiplié par le nombre de naissances, c'était quand même un budget notable, et que c'est les associations de malades qui ont fait du lobbying pour que ça passe, alors qu'il y avait une opposition des associations de médecins, probablement de dire à quoi bon, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, c'est tellement rare, c'est pas la peine de... Voilà. Donc, là encore, ça montre qu'effectivement, cette pression des familles, dans le cas de ces maladies rares, est extrêmement importante, et ça reste évidemment aujourd'hui, et vous connaissez évidemment ces diverses associations et l'AFM au premier temps. Donc, tout est très bien, il y a un dépistage néonatal qui marche, il y a des enfants qui sont traités par ce régime pauvre en phénylalanine. C'est un régime quand même qui est lourd, parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller au McDonald's du coin manger un hamburger, ils ne peuvent pas manger... Il faut une nourriture avec des hydrolysats de protéines dont on a retirer la majorité de la phénylalanine, mais d'autre part, la phénylalanine est un acide aminé essentiel pour la croissance, etc. Donc, il faut en avoir suffisamment, parce que sinon, il y a des troubles de la croissance, mais pas trop, parce que sinon, il y a donc, si vous voulez, c'était un équilibre délicat, mais les gens avaient mis ça au point, ça avait l'air de marcher bien, les enfants n'avaient pas de retard mental, alors que autrement, sans traitement, c'était un retard mental très sévère. Alors, déjà, on se doutait qu'il risquait d'y avoir un problème avec les mères hyperphénylalanémiques. Et dès 1963, il y avait une publication d'une jeune femme, c'était donc avant même qu'on fasse le traitement, etc., d'une jeune femme qui, je ne sais pas quelles sont les conditions, avait... eu un enfant sévèrement mal formé, et on avait vu qu'elle était hyper, qu'elle avait une phénylcétonurie, et cet enfant était sévèrement mal formé, alors que lui-même n'était pas, puisque c'est une maladie récessive, il était hétérozygote, mais il n'était pas lui-même, il n'avait pas de phénylcétonurie lui-même. Et donc, ça a suggéré que, attention, il pourrait y avoir une toxicité d'un taux élevé de phénylalanine maternelle sur le fœtus. Et effectivement, à partir des années 70, on a commencé à avoir des grossesses chez des filles qui étaient nées dans les années, disons, 1960, oui, un peu plus après, disons, fin des années 70, des filles qui commençaient à avoir des grossesses, et effectivement, on s'apercevait qu'elles avaient des enfants qui étaient très sévèrement atteints, et non seulement un retard mental, mais avec carrément des malformations, une microcéphalie, souvent des malformations cardiaques, et un retard mental, un retard de croissance, etc. Et finalement, si vous dites que si on ne faisait rien, tous les enfants d'une femme phénylcétonurique allaient avoir ça, bien ça veut dire que tout ce que vous aviez gagné pendant une certaine période, vous alliez le reperdre parce que vous alliez refaire autant et même plus pour une femme phénylcétonurique traitée, elle pouvait avoir deux ou trois enfants qui, eux, allaient être atteints. Donc, ça allait le problème allait ressurgir. Alors, ils ont finalement trouvé que si on faisait un traitement diététique, mais alors lui, beaucoup plus strict que celui qu'on faisait avant, à partir de la conception, et ça veut dire que, parce que, comme dit, la conception, c'est pas toujours exactement quand elle se passe, etc., c'est-à-dire qu'on conseille même à ces jeunes femmes de reprendre un traitement diététique strict à partir du moment où elles ont une idée de grossesse. Parce qu'effectivement, il faut que ce traitement strict soit commencé donc à partir du début du développement du fœtus jusqu'à l'accouchement. Et ça résout, semble-t-il, le problème. Mais ce n'est pas si facile que ça. Ce qu'il faut dire une chose, donc, pendant longtemps, on a pensé que ce traitement, il suffisait de le faire pendant la période de développement du cerveau, et puis que quand l'enfant avait grandi, il semblait qu'on pouvait peut-être le relâcher un peu, en tout cas le rendre moins strict, et notamment la période de l'adolescence, c'est une période où effectivement l'enfant, l'adolescent, il veut être comme ses copains, il veut manger comme ses copains, et si à chaque fois on dit « ben non, toi, il faut que tu manges quelque chose en plus qui n'est pas toujours... semble-t-il, cette nourriture spéciale, elle n'est pas toujours extrêmement appétissante. Donc, c'est un traitement qui n'est pas évident à poursuivre toute la vie. Donc, on avait tendance à soit dire, bon, ben, finalement, on peut l'arrêter, soit en tout cas diminuer sa... la manière dont il était suivi. Donc, ça voulait dire qu'il fallait retrouver toutes les filles qui avaient été traitées, qui peut-être avaient été perdues de vue, parce qu'elles avaient arrêté le traitement, ou elles continuaient un traitement plus ou moins bien, mais sans revoir un médecin, pour pouvoir les avertir et leur dire, attention, là, il y a un danger gravissime d'avoir un enfant mal formé. Et comme disait Charles Craver, qui est un grand spécialiste des maladies des acides aminés, il dit... c'est donc ce qu'il écrivait en 1997, 30 ans après que l'on sache que ça serait un problème, je vous l'ai dit, à partir de 1963, on savait qu'il y avait ce problème, c'est un problème qui doit être résolu et qui ne l'est pas complètement, parce qu'autrement, tout ce qui a été gagné par la prévention du retard mental lié à la phénylcétonurie sera perdu dans cette espèce d'échange faustien ou de contrat faustien terrible. Alors, donc, voilà, c'est ça. Il faut retrouver toutes les femmes diagnostiquées. Ce n'est pas toujours évident. Et d'où, et c'est souvent le cas aussi pour beaucoup de ces maladies, la nécessité d'avoir des centres de référence. Alors, par exemple, grâce au plan maladies rares en France, on a maintenant un réseau de centres de référence et ça joue un grand rôle. Et d'avoir des bases de données de patients pour pouvoir retrouver les patients. Mais ce n'est pas toujours facile parce que quelquefois, ils déménagent, ils ont changé d'endroits. Et donc, voilà. Alors maintenant, on pourrait se dire, ben voilà, c'est une histoire presque finie. Bon, on a mis au point le dépistage, on a mis au point un traitement diététique. Il y avait l'histoire de l'hyperphénylalanémie maternelle, mais on sait comment pouvoir la traiter. Et pourtant, il y a des recherches qui se poursuivent pour essayer de trouver des traitements alternatifs aux traitements diététiques. Alors, pourquoi ? Bien, on s'est quand même aperçu, d'abord, que les enfants qui avaient été traités n'avaient pas de retard mental, mais si on comparait le QI à celui de leurs frères ou sœurs ou à celui de groupes contrôle du même âge, même milieu social, ils avaient quand même un QI un peu plus faible. Et puis, ils avaient quelquefois des troubles psychologiques, notamment dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc, il y avait quand même des petites choses. Et surtout, on s'est aperçu peu à peu qu'il ne fallait pas arrêter le traitement diététique. Parce que si on arrêtait le traitement diététique, bon, il ne retombait pas dans un retard mental tragique comme ceux des enfants qui n'avaient pas du tout été traités, mais ils perdent. Ils perdent des fonctions cognitives, ils ont des troubles neurologiques, etc. Et donc, comme il est ici, il y a un consensus maintenant quasi total qu'il faut faire une thérapie à vie. Et que malgré cela, quand même, la manière de prendre en charge la phénylalanine reste variable dans le monde. Et comme je l'avais dit, le problème de cette thérapie diététique à vie, c'est qu'elle est quand même assez lourde. Elle est d'abord assez coûteuse, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas aller au supermarché du coin prendre des choses qui sont les moins chères. Vous devez avoir des choses qui sont produites en petite quantité, qui sont traitées. Apparemment, bon, maintenant, il y a des efforts pour que ça soit un petit peu plus goûteux, mais ce n'est pas évident. Ces problèmes sociaux, hein, comme je dis, c'est l'adolescent qui voudrait pouvoir aller au McDo avec ses copains et qui ne peut pas. On peut se dire que ce n'est peut-être pas très grave, mais enfin, voilà. Et il y a aussi le fait qu'il peut y avoir des déficiences nutritionnelles qui se surajoutent. Donc voilà, donc tout ceci fait qu'on se dit que ça serait quand même bien d'avoir peut-être des thérapeutiques alternatives, peut-être pour un jour éviter d'avoir à prendre à vie ce traitement diététique, ou pouvoir le prendre d'une manière un petit peu moins stricte, notamment pour ceux pour lesquels il y a un rejet. Cette enzyme, d'ailleurs, juste une petite chose que j'avais oublié de dire, la phénylalanine hydroxylase, donc qui est l'enzyme déficient dans le retard dans cette maladie, est une enzyme qui est exclusivement hépatique. Donc je trouve que c'est intéressant de rappeler que le retard mental, ce n'est pas toujours parce qu'il y a un gène et une protéine qui est importante dans le fonctionnement du cerveau et des neurones qui est anormal. Là, il s'agit d'une enzyme hépatique, mais simplement, le résultat est l'accumulation d'un produit qui est toxique pour le cerveau. Cette enzyme a des cofacteurs qui s'appellent tétrabioptérine, BH4, et on avait déjà remarqué que certains patients phénylcétonuriques ne réagissaient pas au traitement diététique, et c'est heureusement une petite minorité, et on s'est aperçu que parce qu'eux, ils avaient un déficit dans cette réaction enzymatique, non pas parce que l'enzyme elle-même était déficiente, mais parce qu'il y avait une déficience dans une des enzymes de synthèse du cofacteur de la bioptérine. Et donc, s'il n'y a pas de bioptérine, il n'y a pas l'activité enzymatique est nulle. Et donc, ils ont commencé à développer des bioptérines de synthèse pour essayer de traiter ces patients. Et puis, il y a eu des essais aussi chez des patients phénylcétonuriques par déficit en phénylalanine hydroxylase. Et on s'est aperçu que chez certains patients, notamment ceux qui avaient encore une certaine activité enzymatique résiduelle, que si on donnait cet analogue de tétrabioptérine, qui s'appelle maintenant la sapropterine, en tout cas aux États-Unis, je ne sais pas comment c'est en France, eh bien, certains patients, pas tous, étaient, comme on appelle, BHK sensibles, et donc s'amélioraient avec cette molécule. Il y a eu des essais cliniques, phase 2, phase 3, et à l'heure actuelle, c'est un produit, donc une molécule qui a été approuvée par la Food and Drug Administration, et je crois aussi en Europe, mais qui ne peut être utilisée que chez les patients qui sont BHK sensibles. Ce n'est pas de loin pas chez tous les patients phénylcétonuriques. Et éventuellement, ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir tester. Donc, de toute façon, la base, ça reste le traitement diététique. Mais imaginons que voilà, y a un adolescent qui veut vraiment plus prendre son régime ou qui le suit très mal. On peut essayer de voir est-ce qu'il est BHK sensible et donc pouvoir le donner. Et comme dit c'est la conclusion ici, les cliniciens doivent se poser la question des facteurs de coût du traitement et des facteurs aussi de combien le patient va suivre le traitement alternatif par rapport au traitement diététique. Donc ça, c'est un traitement qui est déjà, j'allais dire, sur le marché. Mais il y a plein de gens qui essayent plein de choses différentes. Et quelquefois, il y a des études qui sont précliniques, c'est-à-dire sur des modèles animaux. D'autres fois, des choses qui ont déjà passé le crible de premiers essais cliniques ou qui sont en essais cliniques. Et alors... voilà. Alors, pour vous indiquer quelques-unes de ces de ces essais ou de ces stratégies qui sont testées, y en a une qui va introduire un petit peu ce que je vais vous raconter après sur les thérapies par remplacement enzymatique. Et là... pour des raisons, je crois, de facilité de production d'un enzyme actif, la cible n'est pas l'enzyme qui est déficient, mais d'essayer d'apporter un autre enzyme qu'on appelle la phénylalanine ammonialiase, qui est aussi une enzyme qui permet de cataboliser la phénylalanine en enlevant de l'ammoniac. Donc d'apporter cette enzyme notamment dans les voies digestives de manière à, si vous voulez, cataboliser la phénylalanine qui est présente dans l'alimentation, la cataboliser de manière plus importante. Et effectivement, donc il y a une enzyme qui a été préparée, modifiée par addition d'un composé qu'on appelle le PEG, pour la stabiliser, pour que cette protéine puisse être prise par voie orale et ne pas être elle-même digérée, parce qu'il faut qu'elle puisse... donc elle peut être encapsulée, etc. Et là, apparemment, il y a un essai clinique qui démarrait en 2008. Je ne sais pas quel est le résultat. Donc ça, c'est remplacement enzymatique. Il y a des études sur la souris qui ont montré que on pouvait faire de la thérapie génique chez la souris. Il y a des modèles de souris de phénylcétonurique. Mais pour le moment, tous ces essais sont restés chez la souris. Il n'y a pas eu d'essais chez l'homme. Pour le moment, quand même, les gens sont un peu réticents pour la thérapie génique. Et donc, on l'utilise, ou les essais sont quand il n'y a vraiment rien d'autre. Donc, si vous voulez, le problème de la phénylcétonurie, c'est que vous avez déjà un traitement dont on sait qu'il marche et qu'il n'est pas dangereux. Il n'est peut-être pas parfait, mais il n'est pas dangereux. remplacer ça par un traitement dont on ne sait pas s'il marche, qui risque d'être beaucoup plus cher, etc. Donc, pour le moment, des études sur la souris, en faisant soit se dire là où la phénylhydroxylase est, en principe, je vous ai dit, c'est une enzyme hépatique, ça serait d'essayer de réintroduire avec un vecteur viral, et ça a été montré possible chez la souris, le gène codant pour cette protéine dans les cellules hépatiques de manière à ce que ces cellules hépatiques puissent produire la phénylalanine-hydroxylase. Donc ça, ça marche chez la souris. On sait mieux avec les vecteurs actuels, on sait corriger aussi le muscle. Le problème, c'est que si on essaye dans le muscle, non seulement il faut apporter la phénylalanine-hydroxylase, mais les gènes des 3 ou 4 enzymes qui sont nécessaires pour avoir ce cofacteur bioptérine, parce que sans ce cofacteur, l'enzyme est inactif. Et là aussi, il y a eu en 2008 un exemple sur la souris, mais une souris c'est tout petit, montrant qu'on pouvait corriger ce modèle souris, le déficit dans cette modèle souris, c'est-à-dire faire baisser la phénylalanine sanguine, en corrigeant, en mettant dans le muscle à la fois le gène de la phénylalanine-hydroxylase et les 5 gènes voilà, nécessaires pour pouvoir produire du BH4. Donc voilà. Et une dernière chose qui semble d'ailleurs intéressante, il y a eu des essais cliniques, semble-t-il, très, très encourageants. Il y a des acides aminés, ce qu'on appelle les grands acides aminés neutres, comme la leucine, l'isoleucine, etc., qui font une compétition avec la phénylalanine au niveau du transport dans le cerveau et peut-être à travers la barrière hématoménagée. Et donc, il semble qu'on pourrait faire de la compétition en augmentant l'apport de ces acides aminés neutres pour à la fois diminuer la phénylalanine dans le sang et le cerveau, mais aussi peut-être justement l'excès de phénylalanine peut-être a une action d'inhiber le transport de ces acides aminés neutres et que ça pourrait être une partie de la pathologie aussi. Et donc, il y a eu des essais encourageants, 10 essais cliniques en 2007, montrant que là aussi, il y avait peut-être quelque chose d'intéressant, peut-être pas pour remplacer la thérapie diététique, mais pour la complémenter. Donc, je crois qu'on a terminé pour la phénylcétonurie. Thérapie des génétiques. Alors, juste rappeler l'autre exemple, je dirais, assez vieux de traitement de maladies génétiques, c'est les hémophilies. Hémophilie A, déficience en facteur 8, hémophilie B, déficience en facteur 9, où, assez tôt, quand on a pu à peu près identifier biochimiquement, et je dis encore à peu près parce que c'était complexe, donc dans certains cas ça a été fait après même que le traitement ait été mis au point, qu'il pouvait y avoir des extraits plasmatiques, des concentrés plasmatiques, qui permettaient d'apporter le facteur de coagulation manquant et qui était responsable du fait que ces enfants saignaient à la moindre blessure et que ça pouvait effectivement entraîner des problèmes extrêmement, extrêmement sévères. Ces traitements par substituts plasmatiques, concentrés plasmatiques, marchaient bien. Et puis, patatras, en 1980-82, on s'est aperçu que ces concentrés plasmatiques, où il fallait souvent prendre, pour pouvoir les préparer, poulets du sang de donneurs, eh bien, certains de ces donneurs étaient contaminés par un virus qu'on ne connaissait pas à l'époque, qui était le virus du sida. Et donc, à partir de 1982, on a commencé à voir que les hémophiles étaient, à une extrêmement grande fréquence, contaminés par le HIV. Et ça, ça a été dramatique parce que, en tout cas, j'ai les chiffres aux États-Unis. 2/3 des hémophiles aux États-Unis, dans les années 80, ont été contaminés par le virus du HIV. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les traitements antiviraux, etc. Et donc, ça a été absolument catastrophique. Donc, de nouveau, on avait aidé, et puis ceux qui aidaient avaient été ce qui apportait la mort. Voilà, c'est un petit peu l'histoire. Hein, c'est que, alors, l'hémophilie, c'est connu depuis très très longtemps, puisque dans le Talmud, il y a déjà, je crois, un type qui s'appelle Ben Gamliel, qui avait écrit que si après la circoncision, un enfant est mort parce qu'il ne s'arrêtait pas de saigner, on a le droit de ne pas circoncire le frère suivant. Donc ils avaient reconnu que de temps en temps, il y avait des familles où les garçons avaient des problèmes de saignement. Et puis on a reconnu que c'était les garçons, que c'était lié à l'X. En 1939, les premiers travaux montrant qu'il y avait un facteur plasmatique anti-hémophilique. Et à partir de 1955, on commence à tester est-ce que on peut faire une infusion de plasma d'un donneur normal et est-ce que ça corrige ? Oui, ça corrige, mais ce n'est pas très efficace, il faut beaucoup de plasma, etc. Et en 1965, il y a une chercheuse américaine qui a mis au point une première technique de préparation de concentré de cette activité. Ce n'était pas la protéine purifiée, mais c'était quelque chose de concentré qui pouvait se donner plus facilement. Et donc, c'est ce genre de choses qui a été donné aux hémophiles pendant longtemps, jusqu'à, comme je dis, en 1982, premier cas de sida. Par la suite, on s'est aperçu que non seulement il pouvait être contaminé par le virus du HIV, mais en 1989, on a découvert le virus de l'hépatite C. Comme on ne l'avait pas découvert avant, on ne pouvait pas évidemment tester la contamination de donneurs avant, et donc on s'est aperçu que beaucoup d'hémophiles traités étaient aussi contaminés par l'hépatite C, avec des risques de cancer du foie ou de cirrhose. Heureusement, là, le GIG éthique est arrivé, et en 1984, une des premières biotech qui est devenue maintenant quelque chose d'extrêmement important, qui continue, Genentech, qui vient d'ailleurs, je ne me rappelle plus si c'est Genentech qui a acheté Roche ou Roche qui a acheté Genentech, mais enfin, il y a eu une fusion de Roche et Genentech, a cloné le gène du facteur 8 de coagulation, ce qui a permis, ça a pris quand même environ 5-6 ans, jusqu'à mettre au point une préparation industrielle d'un facteur 8 de coagulation qui donc n'était plus extrait à partir de sang humain, mais qui était produit par biotechnologie et donc qui n'avait plus le problème de contamination virale. Et donc, à partir de 90-93, les premiers essais cliniques de ce facteur 8 recombinant, qui est maintenant la chose qui, évidemment, est le standard du traitement. Alors, il y a quand même des essais, parce que là aussi, c'est un traitement qui est plus ou moins à vie. Là aussi, les gens se disaient, mais si on pouvait faire une thérapie génique qui ferait que c'est l'organisme lui-même qui fabriquerait le facteur de coagulation. Alors ça a été surtout étudié sur des modèles précliniques pour l'hémophilie B. Pourquoi l'hémophilie B ? Parce que simplement, c'est une protéine qui est plus petite, donc c'est un peu plus facile pour la thérapie génique de loger dans un vecteur le gène que dans pour le facteur 9 de coagulation. En 1999, il y avait eu des choses très intéressantes. Il y a un chien spontanément hémophile avec l'hémophilie B, génétiquement, hein, mais c'est une mutation spontanée. Et en utilisant un vecteur qu'on appelle l'AV, dont je parlerai la semaine prochaine, il y a un papier qui est sorti en disant qu'on arrivait à corriger à long terme, c'est-à-dire, je crois, une correction sur un an et demi. On avait fait une injection d'AAV, je crois musculaire, et ce chien produisait suffisamment de facteur 9 de coagulation pour corriger son hémophilie. Mais en 2003, il y a eu un essai clinique chez quelques hémophiles volontaires, et malheureusement, chez l'homme, ce n'était pas efficace. Et donc, à ma connaissance, pour le moment, il n'y a plus d'essai clinique là-dessus de thérapie génique, mais peut-être qu'il y a des choses que je ne connais pas ou qui sont en préparation. Mais disons, là aussi, on voit, donc, si vous voulez, une longue histoire, hein, puisque... je dirais, à partir du moment où on comprenait à peu près, donc vers les années 40, qu'est-ce qui manquait, encore qu'on n'avait pas vraiment le détail quelle était la protéine, la mise au point de premier traitement en 65, finalement, le traitement par facteur recombinant vers 93, vous voyez qu'il y a, quand même, évidemment, et pour le moment, ce traitement existe. Alors, est-ce que là aussi, je veux dire, vous avez un traitement, est-ce que ça veut dire que tout était résolu? Non, il y a encore des problèmes. Un des problèmes, alors, c'est qu'il y a à peu près 20 à 25% de patients qui développent des anticorps inhibiteurs contre cette protéine qu'on leur injecte. Alors, la plupart du temps, on arrive à quand même... prendre en charge ce genre de choses, soit en augmentant la quantité de facteur 8 qui est donné, ou en faisant des traitements de ce qu'on appelle de tolérisation. Mais tout ça, ça coûte très cher. Je me rappelle qu'un jour, à l'hôpital de Strasbourg, il y avait un hémophile qui avait des problèmes de genoux. Ça, c'est très classique chez les hémophiles. S'ils ne sont pas très bien traités, où est-ce qu'on saigne facilement? C'est dans les articulations, parce qu'on se cogne. Et quand on saigne de manière répétitive dans les articulations, ça finit par vous détruire les articulations. C'est ce qu'on appelle le genou hémophile. Et à Strasbourg, on avait un très bon chirurgien qui était apparemment un spécialiste du genou hémophile. Et il y avait un jeune patient qui avait une forte concentration d'inhibiteurs. Et pour faire cette opération... Il a fallu dépenser, je ne me rappelle plus, c'était plusieurs, je crois 100 000 euros en facteur 8, juste pour cette opération, parce qu'il fallait lui donner des quantités massives pendant l'opération de facteur 8, parce que comme il avait des anticorps inhibiteurs, il fallait lui en donner encore beaucoup plus. Donc ça reste un problème qui en général peut être pris en charge, mais qui augmente le coût du traitement. Est assez cher, et notamment, il y a deux manières de faire ce traitement. Soit on dit, on ne sait pas quand la personne risque de se cogner, risque d'avoir quelque chose, donc on va lui donner un traitement de manière prophylactique tous les 15 jours ou toutes les semaines. Et autrement, il y a ce qu'on appelle le traitement à la demande. Tiens, je vais avoir une intervention dentaire, il me faut un truc, ou... je vais faire telle ou telle chose, ou je me suis cogné, donc évidemment, on va en faire. Il y a eu des études cliniques qui ont montré, par exemple celle-là, c'est paru en 2007 dans le New England Journal of Medicine, qui montre que le traitement prophylactique marche mieux et notamment évite plus les problèmes d'arthropathie que le traitement à la demande. Et donc, finalement, on devrait pouvoir faire, on est aux États-Unis, du traitement prophylactique chez tout le monde. Or, si à l'heure où cette chose avait été faite, il n'y avait que 50% des enfants qui ont été traités par traitement prophylactique. Les autres, c'est le traitement à la demande. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est le coût du traitement pour un enfant de 50 kilos. Si le traitement prophylactique, c'est 300 000 dollars par an. Alors, vous voyez, bon, aux États-Unis, c'est les assurances. Chacun il a des assurances qui payent plus ou moins bien, etc. Et donc, si on ne le fait que chez 50%, c'est parce que, pour d'autres, ils n'ont pas les assurances qui leur permettent d'avoir des traitements qui sont aussi chers que ça. Et ça, c'est aux États-Unis. Mais vous voyez bien que dans des pays avec une organisation du système de santé... moins moins dispendieuses où il y a des problèmes, eh bien, il y a encore beaucoup de patients dans des pays qui ne vont pas être traités ou qui vont être maltraités. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, alors, un dernier, parce que en faisant la bibliographie là-dessus, j'ai vu un papier du New England Journal of Medicine de 2009. Le New England Journal, c'est un très grand journal, évidemment, qui m'a intéressé. Je crois qu'en France, on n'aurait pas osé faire une étude comme ça. C'est de comparer, est-ce qu'il y a une différence dans les réactions aux maladies, dans le traitement, etc., entre les groupes de population, notamment c'est Black patients, et il y avait des données qui suggéraient que les patients noirs hémophiles, il y a autant d'hémophiles chez les noirs que chez les blancs, il y a certaines maladies génétiques qui peuvent être spécifiques d'une population donnée, parce que vous avez ce qu'on appelle des effets fondateurs. L'hémophilie, en général, c'est des nouvelles mutations. Donc, ces nouvelles mutations, elles arrivent chez les noirs, les blancs, les jaunes, etc. Donc, c'est des maladies, l'hémophilie A, en tout cas, qui est aussi fréquente dans les différents groupes humains. Et il y a des observations qui suggéraient que les patients noirs américains faisaient plus souvent des anticorps inhibiteurs contre le facteur 8 de traitement, et donc c'était un problème, hein, comme je l'ai expliqué, que les Blancs. Donc ils ont essayé de comprendre pourquoi. Et alors c'est tout à fait intéressant, parce que ce facteur 8 qui est produit, il est produit à partir d'un gène humain, mais les humains, ils ne sont pas tous pareils. Et il y a des petites différences entre humains au niveau de certains acides aminés du facteur 8 de coagulation. Il se trouve que, on va dire, c'est un peu que le facteur 8 qui a été la séquence du gène du facteur 8 qui a été utilisé pour faire le facteur 8 recombinant correspond à la séquence qui est la plus fréquente chez les blancs. Et que dans la population noire, il y a chez 24% d'entre eux, il y a des facteurs 8 qui diffèrent par quelques acides aminés de celui qui a été utilisé pour faire l'anticorps recombinant. Et on pense que ces quelques différences font que le système immunitaire va plus facilement trouver que ce facteur 8 est étranger et donc monter des anticorps contre ce facteur 8 plus facilement. Donc, si vous voulez, c'est un exemple peut-être un petit peu extrême qui montre que le fait qu'effectivement il y a eu une séquence particulière qui a été utilisée pour faire de manière industrielle ce produit thérapeutique, une séquence protéique, fait que certains qui ont une séquence protéique un peu différente ne vont pas réagir tout à fait de la même manière que les autres. Voilà. Bon, je crois que là, j'ai passé mon heure. Donc, on va s'arrêter peut-être 5 ou 10 minutes s'il y a des nécessités physiologiques ou simplement de se changer les idées. Et puis, on reviendra. J'ai pris un peu de retard, comme toujours, sur mon planning. Donc, on arrête un peu. J'en profiterai pour boire un peu. S'il y a des gens qui ont des questions, évidemment, je suis prêt à y répondre. Soit comme ça, soit vous venez... pas de questions. Oui, ça, c'est le thème suivant.
Oui.
Alors, je dois vous dire que, effectivement, c'est une excellente question. Comme je ne suis pas, moi, spécialiste, et je n'ai pas eu le temps de poser la question, est-ce que. Mais j'oserais penser quand même que notre système de santé, de sécurité sociale, qui est quand même. Ne dépend pas. Qui peut dépendre éventuellement de la qualité du médecin à qui on s'adresse. Mais où, à partir du moment où il y a quelque chose qui est considéré comme étant valable, donc j'oserais penser que le prophylactique doit être celui qui est utilisé, mais c'est vrai que je ne peux pas vous le garantir. C'est une excellente question que je me suis posée il y a deux jours en terminant de préparer ce cours, en me disant, tiens, j'aurais dû téléphoner à un collègue pour savoir qu'est-ce qu'on fait en France. Je ne sais pas s'il y a-t-il... Un hémophilologue dans la salle ? Non. Mais éventuellement, je pourrais, si vous êtes là la semaine prochaine, je pourrais essayer de poser la question et de savoir si effectivement ce traitement prophylactique. Mais je me rappelle, à l'époque, quand on était encore au composé sanguin, où un collègue m'avait dit que 50% des dons de sang en France étaient pour produire les. Les concentrés de facteur 8 pour les hémophiles, alors que c'est une maladie qui touche environ un garçon sur 5000, donc une personne sur 10000 en France. Donc vous voyez, 50% des dons de sang allaient, parce que c'est un facteur de coagulation qui est en présent en faible quantité, si vous voulez, il est très actif, mais il est présent en faible quantité. Donc ça vous montre un peu. Que c'est effectivement. Bon, alors maintenant, c'est plus le cas puisqu'il y a le facteur 8 recombinant. Mais comme tous les produits recombinants, c'est très cher parce que c'est de la haute technologie, parce que le développement de ces choses-là coûte très cher. Et puis, une fois que ça a été développé, les compagnies, je vous donnerai un exemple là, se disent qu'elles ont. Quelque chose qui va leur mettre beaucoup de beurre dans les épinards. Ah non, alors comme on apprend aux hémophiles à s'injecter le traitement, parce que si vous voulez, comme c'est vraiment un traitement qu'il faut pouvoir prendre. Ah, oui, bon, enfin, je pense qu'en fait, si un. Si,
vous
si,
appuyez sur la dent, une fois, moi, ça m'est arrivé.
Oui.
Un ou deux jours, ça a été, puis après, il m'a réagi.
Ah oui, c'est.
Bien, appuyer pour deux jours sur la dent, c'est bien beau. J'ai un problème d'hémophilie.
Oui, non, enfin, bon, où il y a d'autres problèmes de coagulation, hein, c'est
les. Un problème pareil.
C'est ça, oui. Mais alors, c'est peut-être parce qu'il y a. Il y a diverses formes génétiques ou non génétiques, mais souvent génétiques, de problèmes de coagulation. L'hémophilie, c'est un déficit de certains facteurs, mais il y a plein d'autres et c'est quelque chose de très compliqué. Donc les traitements ne sont pas non plus toujours les mêmes selon le problème. Ah oui, non, ça, c'est certain. Vous savez que. Voilà. Qui me racontait d'ailleurs. À l'époque, il y avait aussi l'hépatite A, l'hépatite B, et puis, c'était avant qu'on connaisse l'hépatite C, il y avait l'hépatite non A, non B. Et alors, quelqu'un qui m'avait raconté qu'un jour, un hémophile qui va chez le dentiste, et il lui parle d'hémophilie. Alors, quel type d'hémophilie vous avez ? Hémophilie A, B, ou, parce qu'il y a aussi l'hémophilie A, non A, non B. Sauf que c'était pas tout à fait la même chose. OK, bien. Donc, déjà pris un peu de retard. Donc maintenant, je vais parler d'une troisième forme de thérapie, je dirais qui est là un tout petit peu moins, enfin plus récente, donc moins classique, mais quand même, qui a déjà un certain âge, pour des maladies génétiques, et pour une classe de maladies génétiques très, très particulière, ce qu'on appelle les maladies de surcharge, et par défaut d'enzymes qui sont présentes dans cette usine à dégrader ceux dont on ne veut plus, ou ceux qu'il ne faut pas qu'ils s'accumulent, qui s'appellent les lysosomes. Les lysosomes sont des petites particules organites dans la cellule qui sont bourrées d'enzymes, ce qu'on appelle les enzymes lysosomiales, et qui sont chargées de cataboliser, de détruire un certain nombre de composés, notamment des lipides, pour qu'ils ne s'accumulent pas quand on n'a plus besoin. Et parmi ces maladies, il y a ce qu'on appelle les sphingolipidoses. Les sphingolipides, c'est des lipides qu'on trouve dans certaines membranes, et y compris dans la myéline, la sphingomyéline, par exemple. Et quand ces lipides, qui sont des lipides relativement complexes, doivent être dégradés par des enzymes lysosomiales, et quand il y a, par défaut génétique, un de ces enzymes qui sont absents, eh bien, le substrat de l'enzyme, celui qui devrait être dégradé, va s'accumuler, et en fonction de là où il s'accumule, ça va entraîner des troubles cliniques divers. Alors, certaines de ces maladies sont extrêmement rares. La maladie la plus fréquente est la maladie de Gaucher. Alors là, c'est une maladie récessive, c'est une maladie qui, je dirais, dans la population française générale ou population européenne, a environ une fréquence de 1 sur 50 000, 1 sur 100 000. Mais il se trouve que là, comme souvent pour les maladies récessives, vous pouvez avoir des effets fondateurs, c'est-à-dire des mutations qui ont, par des effets de dérives génétiques ou autres, ont pris une fréquence plus élevée dans certaines populations. Et là, il se trouve qu'il y a une mutation responsable de maladie de Gaucher qui est devenue relativement fréquente chez les Juifs ashkénazes. Et donc, la fréquence de la maladie de Gaucher est beaucoup plus forte chez les Juifs ashkénazes que dans d'autres populations. Mais il y a de temps en temps aussi, par exemple en Suède, il y a une forme particulière, parce qu'il y a une mutation particulière dans le nord de la Suède, il est responsable d'une forme très sévère de maladie de Gaucher. Donc, si vous voulez, il n'y a pas que les Juifs ashkénazes. C'est le déficit dans un gène qui code pour une glucocérébrosidase. Cérébroside, c'est un de ces lipides complexes qui porte un résidu glucose. Et pour cataboliser ceci, il faut enlever le glucose. Si on ne l'enlève pas, ça se bloque et vous avez une agglomération donc, de ce composé, glucosylcéramide. Alors tout ça, c'est de la biochimie un peu rébarbative, mais qui était importante. Donc vous voyez, c'est les différentes sortes de sphingolipides les différentes voies qui permettent leur catabolisme. Et puis, chaque fois qu'il y a un petit cercle avec un numéro, c'est qu'il y a une déficience génétique qui peut exister dans l'un de ces enzymes et qui correspond à différents types de maladies. Par exemple, c'est une maladie neurologique très grave, la maladie de Krabbe. 6, c'est aussi une maladie neurologique extrêmement grave, la leucodystrophie métachromatique. Et puis, notre fameux 5, c'est la maladie de Gaucher. Donc, le substrat, c'est glucosylcérébroside. Et en principe, cette enzyme doit enlever le glucose. S'il ne le fait pas, eh bien, ceci s'accumule. Quand ça s'accumule dans de nombreux types cellulaires, en général, le déficit dans la forme la plus fréquente n'est que partiel. Et quand il n'est que partiel, l'accumulation se fait surtout dans les cellules où il y a particulièrement beaucoup de ce glucosylcérébroside. Donc, cette forme la plus fréquente, qu'on appelle le type 1, qui est heureusement puisque c'est la plus fréquente, celle qui est quand même la moins sévère, mais moins sévère, ça reste encore souvent quand même une maladie extrêmement sévère. C'est une atteinte hématologique, notamment avec des troubles des plaquettes, etc. Une atteinte osseuse qui peut être responsable de déformations osseuses, de troubles de la croissance et de douleurs extrêmement handicapantes. Les problèmes osseux peuvent être extrêmement sévères. Vous avez une hypertrophie de la rate et hypertrophie du foie, qui font aussi d'ailleurs que ces énormes rates et énormes foies vont entraîner des troubles respiratoires simplement par compression. Donc c'est quelque chose de très sévère, mais avec une sévérité très variable et qu'on comprend d'ailleurs pas toujours, puisque des personnes qui génétiquement ont exactement les mêmes mutations, chez certaines, jusqu'à l'âge de 40 ans ou 50 ans, on s'apercevra de rien, alors que d'autres ont des formes vraiment tout à fait sévères. Donc, si vous voulez, il y a ce truc que les êtres humains sont quand même très divers du point de vue génétique et que probablement vous avez des interactions avec la constitution génétique de l'individu qui fait que telle ou telle chose va s'exprimer de manière diverse selon les patients, mais c'est particulièrement cette forme 1 de la maladie de Gaucher, c'est effectivement un exemple de variabilité d'expression clinique assez impressionnante. Donc c'est dans les années, je crois, 60-65 qu'on a commencé à comprendre des anomalies enzymatiques. Et ces enzymes, ou certaines de ces enzymes, il y en avait pas mal dans le placenta. Le placenta, ça avait un avantage, c'est que c'est un tissu humain qui est facilement, enfin en tout cas, qu'on pouvait facilement obtenir, puisqu'en principe, on n'en fait rien. Donc si on n'en fait rien, on peut toujours l'utiliser pour préparer des protéines. Et donc, il y avait eu des premiers essais en 73 et 75 pour fabriquer de l'enzyme placentaire et voir est-ce que ça pouvait être utilisé en infusion donc intraveineuse chez des malades, pour la maladie de Fabry d'abord, qui est une de ces maladies, ensuite pour la maladie de Gaucher. Ce n'était pas très efficace. Et ce n'était pas très efficace parce que pour que cette enzyme soit active, il faut qu'il entre dans la cellule, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il agisse. Le facteur 8 de coagulation, il agit dans le plasma. Donc, si vous voulez, ça, c'était pas trop compliqué. Une fois que vous l'infusez dans le sang, il est là où il doit être actif. Un enzyme lysosomiale, si vous le mettez dans la circulation, il faut qu'il rentre dans les cellules, dans les bonnes cellules où il sera utile. Et en plus, il faut même qu'il rentre dans les lysosomes. Et les biochimistes se sont aperçus que ces enzymes lysosomiales, c'était des glycoprotéines, et qu'il y avait à la surface des cellules des récepteurs pour des glycoprotéines qui avaient du mannose exposé dans les chaînes glycoprotéiques, et que ce récepteur permettait d'internaliser ces enzymes à condition qu'ils aient du mannose sur leur chaîne glycoprotéique. Et donc, entre 1977 et 1981, il y a des biochimistes qui ont mis au point des techniques où on traitait l'enzyme qui était placentaire par d'autres enzymes qui allaient enlever une partie des résidus glycoprotéiques pour exposer les résidus mannose. Et une fois que ces résidus mannose étaient exposés, eh bien, ça permettait à l'enzyme de rentrer, notamment de rentrer dans les macrophages. Et quand il était dans les macrophages, il pouvait être internalisé et aller dans les lysosomes. Et là, il pouvait effectivement traiter ces cérébroglucosides qui s'accumulaient. Et donc, en 1981, il y a un papier qui montre qu'effectivement, on arrive à produire cette enzyme partiellement déglycosylée, donc avec l'exposition des résidus de mannose, et que ça a l'air d'être plus efficace. Et ceci conduit à la fondation d'une société qui s'appelle Genzyme. Et cette société, son but, c'est de passer à la production industrielle de cette enzyme pour cette maladie qui touche quand même que, environ, comme je l'avais dit, une personne sur 50 000 à une sur 100 000, même si elle touche plus de juifs ashkénazes, et on peut se dire, comme c'est une compagnie qui s'est installée dans l'Est des États-Unis, il y a un peu plus de juifs ashkénazes dans l'Est des États-Unis. Donc, il commence, parce qu'il s'agit, évidemment, quand vous voulez produire quelque chose qui sera donné de manière régulière à des patients, il faut les produire à la fois dans des conditions de stérilité rigoureuse et de qualité rigoureuse, et puis il faut pouvoir en produire suffisamment. Donc, ça met à peu près 10 ans à ce qu'ils puissent produire en quantité suffisante et réglementaire et que ça soit approuvé par la FDA, Food and Drug Administration, une première préparation d'enzymes placentaires. Mais le génie génétique étant arrivé, c'est très vite remplacé par une enzyme recombinante. Mais là, elle est vous savez qu'en général, quand on veut faire de la biotechnologie, très souvent, on produit les protéines dans des bactéries. Là, on ne peut pas produire dans les bactéries. Pourquoi ? Parce que pour qu'elles puissent s'entrer, il faut qu'elles soient sous une forme glycoprotéine spécifique avec ses résidus mannose. Et ça, la bactérie, elle ne sait pas faire. Dans la bactérie, il n'y a pas de glycoprotéine avec des résidus comme ça. Donc, cette enzyme recombinante, donc on a isolé le gène, le cDNA, on l'a bricolé pour qu'il puisse produire, et il produit dans des cellules en culture, qui sont des cellules de hamster chinois qui poussent très bien, qui ne sont pas contaminées par des virus, etc. Et donc les CHO cells, et donc ils ont mis au point une préparation de cette enzyme, de cette glycoprotéine, évidemment, comme je l'ai dit, de manière qu'il y ait ces résidus de mannose qui lui permettent de rentrer avec une grande efficacité dans les macrophages. Et en 2005, il y avait plus de 4300 patients qui avaient été traités, mais uniquement ou quasi uniquement sur cette forme 1, éventuellement 3, je vous avais oublié, il y a une forme 2 qui heureusement est très rare, qui, elle, est une forme neurologique aiguë et avec des enfants qui meurent très rapidement. La forme 3, c'est comme la forme 1, plus une neuropathie. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que, comme vous le savez, il existe cette barrière hémato-encéphalique qui est faite pour protéger le cerveau contre des virus ou des choses qui risquerait d'être très mauvaise pour lui. Mais cette barrière hémato-encéphalique, elle empêche beaucoup de choses de passer. Et notamment, si vous injectez cette enzyme par voie sanguine, ça ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, et donc ça ne va pas dans le cerveau. Et donc ça ne va pas pouvoir corriger le déficit dans des cellules gliales ou neuronales. Donc c'est actif, cette enzyme, sur les aspects non neurologiques de la maladie de Gaucher, donc sur la forme 1. La forme 1, par définition, est non neurologique. Ça va être actif sur les aspects non neurologiques de la forme 3, mais pas sur les aspects neurologiques de la forme 3. Et sur la forme 2, on n'essaye même pas, parce que de toute façon, la forme 2, ce qui compte, c'est que c'est une forme neurologique aiguë. Et donc, voilà. En France, en 2003, il y avait 250 patients identifiés, 150 traités. Alors pourquoi il y a une différence ? C'est que le traitement, on y reviendra, est tellement cher qu'on ne le donne qu'à ceux qui ont vraiment une maladie sévère. Je vous avais dit que c'est une maladie de sévérité très variable. Donc, il y a des critères de sévérité qui disent, voilà, s'il y a une personne qui a telle ou telle chose, oui, on va faire le traitement. Si il y a une sévérité moindre, d'autant plus que, je vous avais parlé, il y a un traitement depuis 2002 pharmacologique alternatif pour les formes moins sévères. Donc, oui, quand je dis que c'était un traitement qui est cher, 200 000 dollars par an, je suppose que ça veut dire à peu près 200 000 euros par an. Donc, il n'y a peut-être pas énormément de malades, mais quand vous multipliez par quand même par 150, ça fait beaucoup. Et en Israël, par exemple, le problème de juifs ashkénazes, c'est un problème. Le traitement de la maladie de Gaucher est un problème, je dirais, économique important. Ils le font, mais... Et en plus, c'est un traitement il faut adapter le dosage pour chaque patient, c'est un peu compliqué. Et je voudrais, parce que c'est une histoire intéressante, je vous avais dit que pendant longtemps, les boîtes pharmaceutiques ne s'intéressaient pas à ces maladies rares. Genzyme a été une des premières, mais une toute petite entreprise au début, à s'intéresser, à dire, voilà, nous, on va essayer de faire un médicament pour une maladie qui est présente chez une personne sur 50 000 ou 100 000. Vous savez qu'il y a une définition des maladies orphelines. Maladie orpheline, ça veut dire que, en principe, des maladies qui sont orphelines de l'intérêt des grands groupes pharmaceutiques. La définition de maladie orpheline, c'est moins de 1 sur 2000. Quand vous êtes à moins de 1 sur 2000, c'est rare que ça intéresse, ou que ça intéressait, en tout cas, c'est en train de changer, les industries pharmaceutiques. Là, on était à 1 sur 50 000. Eh bien, avec ce premier enzyme recombinant, ensuite, Genzyme a commencé à faire d'autres choses, d'autres enzymes pour d'autres maladies, puis à élargir un peu son portfolio. Mais en 2007, revenus, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont vendu, 4,6 milliards de dollars, net income, c'est le bénéfice, 420 millions de dollars. 30% de leurs revenus, c'est l'enzyme de substitutif pour la maladie de Gaucher. 12 000 employés. Alors, ils font une pub pas possible. Les congrès de génétique, vous avez toujours des gens de Genzyme qui sont là. Ils organisent des réunions, ils organisent des congrès. Apparemment, de temps en temps, des congrès dans des villes sympas. Donc, pousse beaucoup, mais ceci dit, c'est utile. Et alors, ce qui a été, pour moi, absolument étonnant, c'était des gens qui, c'était les maladies rares. Hein. Et cette année, il y a un mois, deux mois, Sanofi Aventis, qui est une entreprise en grande partie française, pharmaceutique, a racheté Genzyme pour la modeste somme de 15 milliards d'euros. Donc, vous voyez, alors, c'est intéressant, d'une part, ça dit que, voilà, même avec des maladies rares, on peut se faire pas mal de dollars. Et ça montre aussi qu'il y a un changement. Alors, il se trouve qu'ils ont racheté Genzyme, peut-être pas tellement pour leur portfolio maladies rares, mais aussi pour leur expertise pour préparer des médicaments de base biotechnologique. Et pas des médicaments par chimie. Et donc, c'est quand même très, très étonnant qu'effectivement, une grosse pharma comme Sanofi Aventis a racheté ce qui, au départ, était une toute petite entreprise et qui a grossi grâce à un tout petit nombre de médicaments pour des maladies rares. J'ai trouvé sur le site de Genzyme leur pipeline Donc, bon, évidemment, le cérébrosidase est déjà bien fait. Ils ont deux médicaments substitutifs, donc des enzymes substitutifs, qui ont passé la phase 3 et donc qui sont maintenant en diffusion, qui sont donnés aux malades, pour la maladie de Fabry ou pour la maladie de Pompe. La maladie de Pompe, c'est une maladie notamment... musculaire et cardiaque extrêmement, extrêmement sévère, qui conduit à la mort assez rapidement des enfants atteints. Et donc là maintenant, il y a, comme vous savez, il y a des différentes phases précliniques. Phase 1, c'est juste montrer que le médicament n'est pas dangereux. Phase 2, qui peut être efficace. Phase 3, c'est vraiment montrer l'efficacité. Et si vous avez passé la phase 3 et montré l'efficacité, à ce moment-là, vous pouvez avoir l'autorisation de mise sur le marché et vous continuez avec les post-marketing studies. On verra aussi qu'ils s'intéressent à des thérapeutiques qui, elles, sont des thérapeutiques mutations spécifiques. Je parlerai dans mon dernier cours de cette atalurène, mais ça, c'est encore qu'en phase 2. Donc, vous voyez, mais pour la plupart, c'est donc des maladies génétiques rares, bien qu'on trouve Parkinson aussi, mais Parkinson, c'est encore qu'en phase 1 par thérapie génique. Donc, c'est encore loin d'être... Alors, le succès de Genzyme a évidemment suscité des appétits et, ou des idées, et il y a, ce qui est d'ailleurs toujours bien, il y a une autre compagnie de biotechnologie qui s'appelle Shire, qui s'est mis un peu sur le même marché, a préparé des enzymes qui puissent être données pour d'autres de ces maladies lysosomiales, comme syndrome d'Hunter, également la maladie de Fabry, etc. Et donc, ils ont déjà deux enzymes qui peuvent donner pour ces maladies qui sont encore plus rares que la maladie de Gaucher, mais qui sont des maladies sévères, la maladie de Fabry et la maladie de Hunter. Alors, juste pour dire que ça, c'est... Il y a un enzyme qui manque, donc on va essayer de le produire par biotechnologie et de l'infuser, faire des infusions, mais ces infusions, ça veut dire qu'effectivement, il faut faire donc par voie sanguine. Là aussi, c'est des thérapeutiques, donc je vous avais dit, extrêmement chères, et qui sont des thérapeutiques de toute une vie, parce que vous avez besoin de cette enzyme tout le temps. Alors, il y a l'essai de développement de molécules pharmacologiques, et là, il y en a une qui est diffusée, qui a son autorisation de mise sur le marché depuis 2002 pour la maladie de Gaucher. Et l'idée, c'était pas d'agir au niveau de l'enzyme, mais d'agir au niveau du substrat de cette enzyme et d'inhiber l'enzyme d'avant pour diminuer l'apport de substrat, donc réduire l'apport de substrat. Et donc, ils ont pu développer donc, une molécule, un analogue de glucose, qui est un inhibiteur de l'enzyme qui synthétise ce glucosylcéramide. Donc, l'idée, c'est puisque ce glucosylcéramide, à cause du déficit enzymatique des malades, est moins dégradé, eh bien, on va essayer de diminuer l'apport de cette molécule, donc réduire l'apport de substrat. Et effectivement, il y a eu des essais cliniques qui ont montré que c'était efficace, mais pour les patients qui avaient les formes les moins sévères. Maintenant, on se pose la question aussi, est-ce qu'éventuellement, comme le miglustat, lui, passe la barrière hémato-encéphalique, est-ce qu'il serait peut-être intéressant, en combinaison avec l'enzymothérapie, pour traiter les formes avec neuropathie, les formes 3. Et donc là, il devra y avoir des essais cliniques où ils sont peut-être en cours. Ce qu'on s'est aperçu aussi, plus récemment, c'est que ce miglustat peut-être ne marche pas seulement comme un inhibiteur de l'enzyme d'avant et donc en réduisant l'apport de substrat, mais comme finalement l'enzyme qui est déficient en gaucher est une glucosidase, donc cet analogue de glucose, mais il était montré qu'il semble pouvoir agir comme une chaperone. Alors qu'est-ce que c'est les chaperones pour qu'une protéine puisse assumer sa forme correcte et ne pas être dégradée, parce qu'il y a des mécanismes dans la cellule qui reconnaissent les protéines qui n'ont pas pris la bonne forme. Il y a des protéines qui agissent comme chaperones, qui aident à stabiliser ou à prendre la forme tertiaire et quaternaire des protéines. Mais on a des composés pharmacologiques qui peuvent, en se mettant par exemple à un endroit critique de la protéine, peuvent stabiliser une protéine, et notamment peuvent stabiliser une protéine anormale qui a tendance à être détruite. Et donc ce qui a été montré, c'est que pour certaines mutations de la maladie de Gaucher, eh bien, le miglusta agit aussi comme chaperone, c'est-à-dire que probablement il aide cette protéine à ne pas être dégradée elle-même et donc augmente l'activité. Donc là, il y a un papier, je vais passer parce que j'ai pris du retard, mais qui montre qu'effectivement, dans des études dans des cellules en culture, où on introduit dans ces cellules en culture des gènes qui sont mutés, qui portent des mutations qui sont présentes chez certains patients, et en fonction que l'on ajoute le miglusta ou pas, on voit que l'activité enzymatique est augmentée, au moins pour certaines des mutations, et donc ça suggère que effectivement le miglusta pourrait aussi agir comme chaperone pour cette enzyme. Et il y a eu d'autres données. D'ailleurs, il y a eu un séminaire que j'avais organisé, un workshop que j'avais organisé il y a quelques années, où il y a un excellent chercheur de Poitiers qui a montré que le miglusta pouvait aussi agir comme chaperone par rapport à certaines mutations de la mucoviscidose. Et il y a, disons, il y a eu un premier essai clinique, mais qui n'a pas été très réussi, mais il y aura probablement des essais cliniques pour voir est-ce que le miglusta pourrait être intéressant aussi comme chaperone pour la mucoviscidose. Je vais passer. Donc, simplement, pour ceux, puisque j'ai vu qu'il y a quelques jeunes qui voudraient peut-être lire des choses complémentaires sur ces sujets, il y a un excellent article qui a 4-5 ans sur Enzyme Replacement for Lysosomal Disease par Roscoe Bardi, qui est un de ceux qui a vraiment fondé le domaine, puisque c'est vraiment celui qui est, je crois, un des tout premiers à travailler sur ces maladies et à proposer l'enzymothérapie substitutive, donc Roscoe Bardi. Et puis, en français d'ailleurs, bien que j'ai copié c'est Dominique Germain, qui est le grand spécialiste en France de l'enzymothérapie substitutive et du traitement de ces maladies lysosomales, qui a fait une revue de thérapie enzymatique substitutive des maladies lysosomales, où il discute les diverses ces thérapies, et vous voyez qu'il commence à y avoir un certain nombre. Alors, c'est souvent des maladies extrêmement rares, mais où il commence à y avoir des choses intéressantes pour d'autres maladies que la maladie de Gaucher. Mais, évidemment, il conclut que le problème principal, c'est que toutes ces enzymothérapies ne fonctionnent que sur des pathologies non neuronales, enfin non cerveau, puisque ces enzymes ne passent pas la barrière hématoencéphalique, et donc que les pathologies liées au système nerveux central représente vraiment le challenge pour ces maladies. Et effectivement, est-ce qu'on pourrait développer plus systématiquement des chaperones, il en existe aussi qui ont été proposés pour la maladie de Fabry, ou les inhibiteurs de synthèse des précurseurs, enfin, ou des composés qui s'accumulent, donc comme ce que je vous avais déjà raconté pour la maladie de Gaucher. Donc, c'est deux références qui pourront vous intéresser. Alors, je n'ai pris que 30 minutes de retard. Et donc, je vais passer maintenant au deuxième cours. Des modèles animaux à des cibles pharmacologiques en essai clinique. et sur deux maladies, le syndrome X fragile, qui est un syndrome dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans ce cours, mais plus sur les aspects à la fois quel type de mutation, aussi une partie des aspects physiopathologiques, mais je reprends ça parce que il vient d'avoir le premier essai clinique, j'allais dire, sérieux et impliquant là aussi une très grande boîte pharmaceutique Novartis, qui vient d'être publiée. En plus, c'est un essai clinique dont un groupe français est un des groupes principaux. Donc, c'est intéressant de voir à la fois ce qui a été fait, les limites, qu'est-ce que ça peut... Et puis, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et puis, l'autre sur le syndrome de Marfan, là aussi... Il y avait une conférence intéressante lors d'un workshop que j'avais organisé au Collège de France par Bart Leuys, qui avait raconté, je dirais, le début de cette histoire. Mais là aussi, c'est intéressant de reprendre et de montrer aussi qu'il y a des choses qui sont arrivées depuis. Alors, le syndrome X fragile, alors je vais parler d'une maladie très différente, hein, puisque le sujet, ce n'est pas le type de maladie, c'est plutôt comment on arrive... à partir de modèles animaux, à pouvoir proposer des stratégies pharmacologiques, quelles sont les limites. Donc, simplement, le syndrome X fragile, c'est la forme la plus connue, la plus commune, pardon, la plus fréquente, de retard mental familial, héréditaire. C'est moins fréquent que, nettement moins fréquent que la trisomie 21, mais la trisomie 21, c'est quelque chose qui arrive... je dirais de manière sporadique, c'est extrêmement rarement familial, c'est un accident chromosomique, alors que le retard mental X fragile, c'est une mutation un peu particulière, mais qui va, justement parce qu'elle est particulière, pouvoir diffuser quelquefois dans des branches très éloignées de famille, et donc être responsable de retard mental sévère chez quelquefois plusieurs... plusieurs enfants, plusieurs adultes, et même dans des branches quelquefois éloignées, quelquefois qui ne se connaissent même pas, dans des familles. Et disons, c'est à peu près 1 sur 5 000 garçons, c'est une maladie au chromosome X, mais qui est partiellement pénétrante chez les filles, donc qui entraîne un retard mental qui est souvent moins sévère, mais quand même significatif chez environ 60% des filles qui ont la mutation. Donc, voilà, 1 sur 5 000 garçons, 1 sur 7 000 filles, ça fait à peu près 10 000 personnes, probablement, qui ont un retard mental en France à cause de cette maladie. Donc, simplement, parce que quelquefois, on dit maladie rare, mais je pense que 1 sur 5 000 ou 1 sur 7 000, ça ne dit pas grand-chose, mais que quand on vous dit, oui, mais ça fait quand même 10 000 personnes en France qui ont un retard mental à cause de ça, on voit que quand même, c'est... j'irais simplement, donc c'est un retard mental avec des troubles du langage, des troubles du comportement qui rendent souvent les choses plus difficiles parce que c'est des enfants qui sont souvent hyperactifs ou au contraire, quelquefois, ils sont... enfin, pas au contraire, mais ils peuvent avoir un comportement aussi autistique avec des choses un peu spéciales. C'est intéressant, mais enfin, c'est pas le but là. Et... du point de vue, il y a très peu d'études neuropathologiques qui ont été faites, mais leur cerveau n'a que très peu d'anomalies. Mais si on regarde de manière très, très poussée, il y a des anomalies des épines dendritiques qui sont des sites synaptiques spécialisés et qui suggèrent qu'il y a des anomalies de la plasticité synaptique et peut-être de la maturation de ces synapses.